France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture. Nous sommes ensemble pour 1h30 de débats critiques d'actualité et d'entretien au plus près du travail des artistes. À 13h, je recevrai Marie-Josée Malice, la metteuse en scène, s'empare du foyer de l'Odéon pour en faire un laboratoire. Elle y présente jusqu'en février 3 pièces élémentaires, nous en parlerons avec elle. Mais vous le savez, tous les midis, c'est l'art délicat de la critique qui ouvre nos agapes. Au programme aujourd'hui de la littérature avec deux campus nouvelles. La récréation est finie de Dario Ferrari, paru aux éditions du Sous-Sol, et Des Inconnus à qui parler de Camille Bordas, paru chez De Noël. L'occasion pour nos critiques de parler d'un genre pas si commun, des romans de cours d'école, enfin d'université, qui interrogent notre rapport au savoir et les mœurs académiques. Et justement, nos critiques du jour, Johan Ferber, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes éditeur, essayiste et critique littéraire, et Romain Debecq de Lièvre, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes conseiller dramaturgique et producteur à France Culture, bienvenue à tous les deux. Alors, premier roman au programme de ce débat, La récréation est finie de Dario Ferrari, traduit de l'italien par Vincent Reynaud, apparu aux éditions du Sous-Sol. On suit l'histoire de Marcello, étudiant dilettante, qui tente de décrocher une bourse pour suivre un doctorat et surtout pour ne pas suivre les traces de son père, tenancier de café. Il l'obtient, cette bourse, et doit donc étudier l'œuvre de Tito Cella, un terroriste des années de plomb rapidement arrêté, mais qui a écrit une autobiographie dont le manuscrit a été perdu. Et voilà que Marcello trouve dans ce texte fantasmé un objet de quête.
Certains choix conditionnent toute une vie. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu tendance à faire ces choix-là au hasard. Si j'avais dû prendre la même décision 5 minutes plus tard, j'aurais facilement pu faire tout le contraire, et je ne crois pas avoir affronté un moment crucial de mon existence, armé du moindre début de réflexion, ni disposé à me fixer des objectifs à long ou même à moyen terme. Le plus souvent, je m'efforce de ne rien faire, et de tout remettre à plus tard, jusqu'au moment où, toutes les possibilités envolées, je peux regagner mon cocon d'inefficacité et m'y abandonner. Autre option, je cède à l'inertie et constate que j'ai fait quelque chose sans l'avoir jamais vraiment décidé, blotti dans une rassurante cocagne d'irresponsabilité. Il y a 2 ans, saisi par une éphémère fascination pour l'Extrême-Orient, ma mère m'a plus ou moins obligé à lire un ouvrage qui soulignait, entre autres, un trait caractéristique de la mentalité chinoise. Au lieu d'agir avec un but en tête, le sage laisse les circonstances le mener où elles veulent, sans s'obstiner, comme les Occidentaux, à vouloir être maître de son destin. Si mon analyse est la bonne, ce qui compte n'est donc pas que je sois paresseux, mais que je sois au fond l'archétype du sage taoïste.
C'est la première page du roman lu par Marceau Vassy. Johan Ferber, un premier avis de lecture.
J'ai trouvé ce roman absolument remarquable, assez rare et très fort pour 3 raisons simples. C'est vraiment un campus novel totalement revisité par le marxisme. C'est aussi, m'a semblé, et ça c'est très intéressant, un roman de la violence politique. Et on l'a entendu là dans cet extrait, c'est un roman qui fait de Bartleby le personnage central d'une sorte de lutte armée. Et c'est vraiment assez remarquable.
Bartleby, lutte armée. Ça donne envie d'en savoir plus. Mais avant, Romain Debecq de Lièvre, votre première impression?
Oui, j'étais très bluffé. Ça démarre comme un roman, c'est comme une satire du monde universitaire qui est vraiment désopilante, avec un ton extrêmement comique et qui d'un seul coup bifurque vers l'histoire politique de l'Italie par un changement de registre. Et donc, on a une variété de tons qui est très très étonnante et on arrive à un roman qui fait une espèce de salto qui retombe sur ses pieds à la fin et qui donne une réflexion aussi politique et entre les générations notamment très très intéressante.
Alors, Johan Ferber, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir le genre campus novel? Qu'est-ce qu'on appelle un campus novel et en quoi le roman de Ferrari s'y inscrit?
Alors, le campus novel, c'est un genre qui est très peu connu en France parce qu'il est très peu pratiqué. C'est un micro-genre, c'est-à-dire qui se destine, selon moi, à une micro-société. C'est-à-dire que on entend bien campus novel, c'est un terme anglo-saxon, et le héros, l'écrivain phare de ce mouvement, c'est David Lodge, avec ses romans universitaires, et qui, je dirais, sont un peu des romans un peu classistes, qui s'adressent en priorité aussi aux universitaires, parce qu'ils reconnaissent, en fait, ce qui les fait vibrer, à savoir les mœurs académiques. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Ce ne sont pas des récits naturalistes des mœurs académiques, ce sont des satires de ce monde académique. Et on retrouve ici, précisément, chez Dario Ferrari, dans La Récréation Infinie, cette satire, hein, Romain le rappelait à l'instant, ce qui est vraiment très fort, c'est que le personnage a l'air de ne pas vouloir entrer dans ce monde universitaire, et on retrouve cette grande figure du campus novel, c'est-à-dire du roman universitaire, on retrouve le novice. Et le novice va avoir un regard neuf sur ses mœurs, et il va les voir comme des mœurs totalement exotiques. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit dans ce livre, c'est que ça ne se limite pas à cette satire. Alors, on rit beaucoup, hein, parce que, effectivement, quand ils doivent rédiger un mail, ils ne savent pas comment s'adresser au grand professeur. C'est-à-dire que ce qui derrière toute cette satire, moi, m'a vraiment épaté, c'est la lecture marxiste. C'est vraiment un roman.
Mais alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve de marxiste ?
Et ce qu'on retrouve de marxiste, c'est que, en fait, le doctorant est placé dans une position vassalité par rapport au professeur, et que ce qui est très fort dans ce roman sur la bourgeoisie universitaire, c'est qu'en fait, tout fonctionne par néo-féodalisme. Et on voit bien, et d'ailleurs, c'est revendiqué, lorsqu'il écrit ce mail que j'évoquais à l'instant, il se demande s'il ne doit pas employer des formules telles que il existait dans l'Ancien Régime, à savoir du XVIIe siècle. Et donc, cette violence sociale et cette violence politique, on la trouve très rarement dans le campus Nobel, qui prend les choses de manière toujours un petit peu légère. Et on voit bien que La Récréation Infinie pose tout de suite, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre narrateur va étudier Tito Cella, qui est un personnage qui est à la fois entre la littérature et la lutte politique, puisqu'il a écrit, après avoir lutté politiquement dans une organisation Ravachol qui est proche des Brigades Rouges durant les années de plomb, les années 70 en Italie, et on voit bien que il va y avoir, et c'est ça qui est très très fort, et Romain l'évoquait à l'instant, une contamination progressive des deux, où ils vont progressivement échanger leur place, et ce campus novel marxiste, pour moi, est vraiment très réjouissant.
Avant de donner la parole à Romain de Begluyère, juste une précision, est-ce que c'est une revisite marxiste parce que l'auteur est italien ? Est-ce qu'il y a un genre européen du campus novel qui serait différent de celui qu'on pratique aux États-Unis ?
Non, je ne crois pas. Le campus novel, en tout cas, à ma connaissance, n'est pas tellement pratiqué en Italie, mais on voit bien que le marxisme tel qu'il s'exprime, c'est en fait un kit de survie chez lui. C'est-à-dire que, en fait, le marxisme, c'est comme un postulat dans une existence. Hein, on voit bien que dans la vie quotidienne italienne, qui est dominée, l'Italie, par la classe moyenne. Hein, c'est vraiment le projet néolibéral total, l'Italie telle qu'on la vit actuellement. C'est-à-dire une certaine mollesse, une certaine effacement des frontières politiques qui ont permis à Giorgia Meloni de s'implanter très facilement. Hein, c'est vraiment la société des classes moyennes, et c'est donc justement, vous voyez, j'ai brûlé les étapes, le roman des classes moyennes, et pour se défendre justement de cette violence-là, le marxisme fonctionne un petit peu comme un kit de survie.
Alors Romain de Begluyère, c'est un roman avec un double fil narratif, hein, l'œuvre de Tito Cella et les mœurs universitaires. Comment ça se tisse ? Comment ça s'agence tout ça ?
Eh bien, en fait, le personnage principal, qui est donc docteur, et ce qui est très fort aussi, c'est comme ça se passe en Italie, c'est une université qui est comme en France, c'est-à-dire précaire. Et il y a une précarité qui nous est présentée de manière très frontale. On n'est pas sur le campus américain où il y a énormément d'argent. Et donc, il y a une guerre pour les postes. Et ça, c'est très, très précis. Et ça dit quelque chose de très, très réel. Et donc, il y a une version comique de ça, mais il y a aussi une version très politique et qui dit quelque chose de l'université aujourd'hui. Et donc, oui, ce personnage de docteur, d'aspirant chercheur, va être invité à réfléchir sur l'œuvre et se plonger dans l'œuvre de Tito Cella, qui est à la fois une œuvre littéraire et en même temps un parcours politique et une autobiographie, comme vous l'avez dit, qui serait un manuscrit perdu.
Mais alors, qui est Tito Cella ? Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Tito Cella, c'est donc un activiste fictif qui a un groupe qui ressemble aux Brigades Rouges. C'est dans la région de la Toscane, à Viareggio, qui est une petite ville en Italie, et donc il vient de là. Et avec un groupe, il a pratiqué des enlèvements dans les années 70, des enlèvements de fils d'industriels, et il a fait exploser un char de carnaval aussi, notamment, parce que les carnavals sont assez importants là-bas. Donc voilà, c'est à la fois comique et à la fois on est dans ce tragique-là. Le moment de Dario Ferrari, c'est intéressant parce qu'il rejoint une figure, bon, à la fois il y a quelque chose de borgésien dans le fait d'inventer un écrivain qui n'existe pas, et Roberto Bolaño aussi qui est cité, on pense à 2666 avec cet écrivain qui n'existe pas. Et donc il y a tout ce jeu d'inventer comme ça une biographie et une œuvre à quelqu'un par la littérature, et donc on n'en a que des bribes. Et il y a le roman est découpé en chapitres, et il y a un chapitre entier qui va être l'autobiographie reconstituée par ce chercheur-là, de Tito Cella. Et d'un coup, on va passer d'un registre qui est très comique, il y a vraiment des pages désopilantes, sur les notes de bas de page notamment, et d'un coup, on va basculer sur l'histoire politique de cet homme-là. Et donc, le ton va changer radicalement, même s'il y a des formes d'humour un peu, mais on se prend la violence politique et l'histoire politique de l'Italie, qui vient en réflexion, en contraste et en miroir avec la génération néolibérale d'aujourd'hui. Il a des pages qui sont incroyables et assez violentes et assez mordantes sur la génération d'aujourd'hui.
Par exemple
Par exemple, avec, je sais pas, le Uber, enfin les modes de vie qui sont complètement déconnectés de toute forme de politique. Enfin, là, j'ai dit Uber, mais ça a l'air un peu débile comme ça. Mais il a des pages qui sont très très puissantes comme ça. Et donc, on a cette génération-là qui est en regard de la génération qui a été très très engagée politiquement. Et donc, il y a une réflexion-là qui est assez saisissante. Ils se gardent de juger l'un par rapport à l'autre. Et ils renvoient chacun aussi à leurs contradictions. Mais on a vraiment là un travail romanesque, justement, qui travaille la contradiction, qui est très très puissant. Ouais.
Alors, Johan, vous parliez de Bartleby, lutte armée. Alors, expliquez-moi le lien que vous faites entre les deux. Parce que Bartleby, dans ma mémoire, dans la nouvelle de Melville, il est plutôt passif.
Ah ben, il est totalement passif. Hein. C'est quelqu'un qui, selon sa célèbre formule, préfère ne pas. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit chez Dario Ferrari, c'est la manière dont on l'a entendu, là, dans Dellingipit, hein, qui a été lu à l'antenne. On voit que c'est effectivement cette irresponsabilité, cette impossibilité à choisir qui fonde le personnage. Et il se laisse porter un petit peu comme une bulle, hein. Il va à cette espèce de concours pour avoir cette bourse, cette allocation de recherche, et puis finalement, par un coup du hasard, il l'a. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il rejoint la figure de Bartleby, mais il rejoint aussi des figures de la littérature italienne, comme Zeno, d'Italo Svevo, un auteur triestin, et c'est-à-dire une conscience vide qui est traversée par le monde. Et cette conscience vide qui est traversée par le monde, elle va se poser une question en se mesurant, en fait, au passé politique de Tito Sella. Et en se mesurant au passé politique de Tito Sella, il va découvrir que quelqu'un qui est intellectuel, qui est retranché derrière ses livres, va passer à l'action. Et donc, il y a une réflexion très forte d'une sorte de Bartleby jeté dans le monde tel qu'on le vit actuellement. Est-ce qu'il doit agir ou est-ce qu'il doit réfléchir? Est-ce qu'il doit rester dans une posture d'intellectuel ou au contraire, est-ce qu'il doit passer à l'action? Et c'est mis en mouvement dans le texte lui-même par un détour par Paris, puisque Tito Sella était à Paris, et où notre narrateur va se confronter au mouvement des Gilets jaunes, et notamment au 1er mai, tel qu'il avait été orchestré de manière tragique par le ministre de l'Intérieur d'alors, Christophe Castaner. Et là, on le voit, en fait, se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demeure un Bartleby, ou alors ou un Zeno, ou est-ce que je passe à l'action? Et tout ce cheminement culmine, alors on peut pas le dire à l'antenne parce que ce serait le gâcher, mais pour moi, les lecteurs le verront et les lectrices aussi le verront, il y a un retournement, un coup de théâtre final dans les dernières pages du livre qui, moi, m'a laissé pantois parce que c'est franchement une des intrigues les mieux orchestrées que j'ai lues depuis très longtemps.
Mais est-ce que c'est un livre quand même qui répond à ces questions? Vous l'avez dit, le narrateur donc se pose beaucoup de questions au fur et à mesure que son travail avance. Est-ce que le livre y répond ou est-ce que les questions restent en suspens?
Les questions restent ouvertes. Je ne sais pas si elles sont en suspens, mais en tout cas, elles sont ouvertes, elles sont posées et elles sont véritablement posées sur la table. C'est-à-dire sortir un peu de cette posture qui est une posture de retrait, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire que tout est pesé. Voilà, tout, on ne nous dit pas quelque chose d'assez lapidaire en disant « bah non, maintenant il faut sortir de sa bibliothèque et se mettre à défiler dans la rue ». Non, c'est tout, tous les questionnements sont jaugés. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça rejoint aussi une autre figure qui est celle, en Italie, du Vitellone, c'est-à-dire cet éternel vieux célibataire. Et on le voit, il y a des scènes formidables où il est avec ses copains au café, au restaurant, où il n'est pas décidé, il vit toujours chez ses parents. Bref, c'est vraiment aussi une question à la fois qui traverse toutes les cultures et puis une question proprement italienne que celle du Vitellone.
Romain de Bec-de-Lièvre, un mot sur la phrase, à quoi elle ressemble littérairement?
Eh ben, elle est assez étonnante, oui, parce qu'on suit donc la conscience de cet individu, et c'est très très drôle dans le détail, et il y a des changements de registre aussi qui sont très très saisissants, c'est-à-dire on s'habitue à ce ton comique, et quand d'un coup on bascule dans une forme de narration qui elle est plus historique et événementielle, on est très surpris, donc c'est quelqu'un qui a une palette aussi d'écriture qui est très très différente. Après, ce qui est très très beau, c'est l'absence de jugement, il place les gens devant les contradictions, il y a une scène qui est magnifique entre une fille de bourgeois qui va dire que la littérature, elle doit être populaire, ça doit être du côté de Don Quichotte, Dostoïevski, Shakespeare, des trucs qu'il faut lire. Et en face, elle a un intellectuel qui s'appelle Pier Paolo d'ailleurs, qui lui est fan de Carlo Emilio Gadda, un écrivain formaliste italien de forme d'avant-garde qui ressemble à Joyce pour aller vite. Et le narrateur va se rendre compte que lui, il est issu d'une classe populaire, le fan de littérature formaliste. Et donc il va retourner la chose en disant « Ah mais oui, mais c'est une bourgeoise qui va dire qu'il faut être populaire et un prolétaire qui va dire qu'il faut des formes d'avant-garde. » Donc on a toujours une dialectique comme ça qui est mise en jeu et qui est très très puissante. Et c'est intéressant aussi d'avoir un regard italien sur, Johan en parlait, sur Paris et sur les évolutions politiques de ça. Et ce qui est très fort aussi, c'est que il nous plonge aussi dans le, je sais pas, dans le marasme contemporain, dans une époque aussi où cette bande de copains, ces Vitelloni là, ils ont pas les armes d'une certaine manière, et ni les armes intellectuelles ni les armes matérielles en fait, pour entrer dans la lutte politique. Il fait le constat aussi de ces années de, je sais pas, de labourage intellectuel du néolibéralisme aussi, qui a désarmé les consciences.
Mais est-ce que vous diriez que derrière le narrateur, c'est l'auteur qui se cache? On a l'impression qu'il est quand même très impliqué dans ce livre-là, non?
Oui, il y a une note à la fin où on sait qu'il a fait un doctorat en Italie. Alors, il y a un jeu de mots d'ailleurs un peu sur la fac n'était pas tout à fait comme ça, mais quand même un peu comme ça. Donc on sent que c'est, oui, quelqu'un qui a traversé ce monde-là et ces questionnements-là, oui.
La récréation est finie de Dario Ferrari, traduit de l'italien par Vincent Reynaud, apparu aux éditions du Sous-sol.